bonjour, bonjour. Donc bonjour, bonjour, bonjour.
1, 2, 1, 2, 3.
Là, il y a de la mousse qui a enlevé.
Oh.
3, 2, 1, c'est parti.
Je ne suis pas un intrus, juste un imprévu.
Singulier au pluriel.
FPP.
Sur FPP 106.3 FM.
Et merde. Voilà, le merde, tu vas peut-être pouvoir le couper, hein. Bon, tu pourras le mettre comme jingle.
Les nuits de Mélie avant de tomber. Les nuits de Mélie avant de tomber. Quand les enfants de Marie vont arriver. Les nuits de Mélie avant de tomber. La mère de ce Outa va se calmer. La mère de ce Outa va se calmer. Quand les enfants de Marie vont arriver. La mère de ce Outa va se calmer.
Bonjour, comme tous les quatrièmes mardis du mois de 18h à 19h, vous êtes à l'écoute de Singulier au pluriel sur FPP 106.3 à Paris et http://rfpp.net à Ceuta, en Espagne, au Maroc, à Douala ou partout dans le monde. Et aujourd'hui, donc, nous sommes avec, on ne refait pas un remake où ça n'est pas une rediffusion comme le jingle à notre indicatif aurait pu le laisser croire. Ce n'est pas une rediffusion de l'émission qu'on avait fait à propos de Ceuta 12 prisons. Mais, on est donc toujours quand même avec Jonathan, qui est le réalisateur, hein, qui nous parlait donc il y a 3 mois maintenant de son excellent film Ceuta 12 prisons, qui tu l'avais réalisé avec Loïc Réchi. Hein, produit par Zaradoc, et malheureusement Nathalie Boissonnet de Zaradoc avait prévu de venir mais n'a pas pu venir. Alors ce film qui est excellent, hein, parce que je le dirai plusieurs fois, mais faut le dire parce que c'est vrai. On peut le regarder depuis pas très longtemps sur le site de RESF. Il a reçu plusieurs prix depuis, dont le premier prix du Festival international du film des droits de l'homme.
Alors non, en fait il est sélectionné au Festival international du film des droits de l'homme qui aura lieu les 6 et 7 février à Paris et à Pantin. La première projection là, à venir sera le dimanche 27 au Festival Bobine Sociale qui est studio de l'Ermitage dans le 20e arrondissement, ouais, à 13h. Et on peut effectivement retrouver toutes les dates du film, il y en a pas mal, il y a 12 dates, il y a même une date à Ouagadougou au FESPACO, le film est pris là-bas, on en est très content. Donc il y a toutes les dates du film qu'on peut retrouver sur le site internet www.ceuta-12-prison-le-film.com.
Voilà, et ça on le rappellera tout à l'heure.
Bien sûr.
Mais si on reparle de Ceuta 12 prison maintenant, c'est parce que donc dans ce film on suivait plusieurs personnes, hein, on suivait.
Voilà, il y a 5 personnages principaux. Le film est vraiment l'alternance de 5 trajectoires, de 5 quotidiens de migrants dans l'enclave de Ceuta.
Là, et un de ces personnages donc qui sont coincés à Ceuta, c'est Guy.
C'est Guy, tout à
et
fait.
Et alors, j'ai été très très content, ça a été une bonne nouvelle, une des bonnes nouvelles de la fin 2012, c'est qu'on a appris que Guy était ici. Alors, avec le cinéma du réel, hein, c'est un petit peu comme la radio, on rencontre des personnages, et on rencontre ces personnages à un moment de leur histoire. Et puis plus tard, on rencontre la personne. Et bien sûr, on rencontre la personne à un autre moment de son histoire. Donc, on avait laissé Guy, je peux te dire, on t'avait laissé Guy, hein, oui, dans le film, et accessoirement dans cette émission, puisqu'on t'avait aussi entendu dans l'émission, mais c'était ce que... des extraits sonores du film. Donc, on t'avait laissé à Ceuta, et maintenant, tu es ici avec nous dans le studio. Donc, laisse-moi d'abord te souhaiter bonne année et bienvenue, Guy, parce que je suis vraiment très content que tu sois là.
Merci beaucoup, merci.
Voilà, parce que le film a été tourné en fait à l'été 2011 dans l'enclave de Ceuta, donc on y est resté 7 semaines, et donc c'était il y a maintenant un peu plus d'un an et demi. Depuis, le film s'est fait, le film commence à sortir, le film c'est beaucoup de moments intimes, de moments très proches, de moments quotidiens, donc tous les spectateurs nous disent qu'on a l'impression de connaître ces personnages, et depuis peu maintenant Guy est là pour de vrai, qui n'est pas que le personnage qui est dans le film, mais il en fait plein d'autres choses, mais c'est vrai que tous les gens qui ont vu le film ont cette impression étonnante de t'avoir côtoyé, ou en tout cas d'avoir une filiation spéciale avec toi.
Voilà, en fait, il faut dire quand même que quand on tournait le film, c'était pas un truc qui... En fait, c'était pas un film qui devait être... Moi, personnellement, je m'attendais pas à ce que ça soit ça. Et bon, je l'ai fait comme ça, mais maintenant, quand je suis arrivé en France, et par la grâce de Dieu et que les choses c'est un peu surprenant quand même. Surprenant et il faut dire que ça touche aussi.
Voilà, et ça, je veux bien croire que ce soit surprenant. D'ailleurs, il se trouve que j'étais... Alors, ce que tu disais sur les gens qui ont vu le film, c'est un petit peu l'impression que j'ai eue, et j'avais l'impression de te connaître. Alors, c'est totalement absurde, parce que je t'ai vu uniquement dans le film. Mais il se passe quelque chose dans ce film où, effectivement, on a l'impression de connaître les gens. Et quand je t'ai vu, donc quand j'étais croisé au cinéma, où tu étais là, j'étais... Non, mais ils me connaissent pas. C'est normal qu'ils me connaissent pas. Je ne sais jamais. Moi, je t'ai vu, mais toi, tu m'avais jamais vu. Donc, il se passe effectivement quelque chose.
Oui. En fait, comment je vais dire ça ? Je suis arrivé au cinéma. Déjà, Jonathan m'avait parlé que bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont fait le truc, tourner le film et tout ça, pour tourner le film. Donc, moi, personnellement, je savais pas ce qui devait se passer. Mais en fait, je reste quelqu'un de... Personnellement, je pense qu'il faut être toujours sociable avec les gens, s'ouvrir et puis essayer de discuter. Donc, quand moi j'ai discuté avec les gens, je me suis rendu compte en fait qu'ils sont nombreux qui me connaissent. Et chaque fois, on dit mais toi on te connaît, toi on te connaît. Et puis moi, je reste toujours stupéfait à la question. Quoi.
C'est parfois très étonnant.
Et puis, il y a eu cette première projection donc, du film, c'était mi-novembre, ouais. Où en fait, tu étais arrivé depuis peu à Paris. Et je t'ai fait venir pour parler après le film, mais c'était surtout toi la première fois que tu voyais le film.
Oui.
Et c'était un moment assez chouette, assez émouvant, et que j'étais content qu'on partage.
C'était un moment très 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 inattendu et, comment je vais dire, plein de surprises. Parce qu'en fait, c'est le fait de se voir en télé. Et je me rappelle une fois, en fait, quand on était à CUTA, moi je ne disais pas... Je pensais pas que ça devait être... moi, je me disais autant, ouais, il tourne, mais bon, c'est pas... Mais quand je me suis vu dans le film, j'ai dit, attends, mais c'est super.
C'était pour de vrai, quoi.
Ouais, c'était pour de vrai. Et puis, ça me rappelle ces moments durs, très, très durs, mais extrêmement durs. Et rien que le fait de me revoir et me rappeler ça, et savoir que je suis ici, je me sens très, très soulagé.
Ouais.
Nous, là où on est très contents d'avoir Guy, notamment pour les projections à venir... au Festival international du film des droits de l'homme, par exemple, c'est que le film pose beaucoup de questions. Le principe même du film, c'est de ne pas répondre à tout, c'est d'essayer d'immerger le spectateur dans le quotidien des migrants et de donner à penser au spectateur qu'il pourrait être lui-même migrant, c'est-à-dire de se retrouver vraiment avec le regard, donc des ornières aussi, parce qu'il y a beaucoup d'informations que le migrant n'a pas. Mmh. Et je voulais vraiment que dans le film, on ait cette impression. Et c'est vrai que du coup, le film... amène beaucoup de questionnements et qu'on est très content que Guy soit là après coup pour répondre parce qu'on a vu des salles où beaucoup de gens ont de nombreuses questions à te poser.
Oui. En fait, parce qu'il faut dire que c'est pas évident. Déjà, c'est pas évident, c'est très facile de voir, mais entre vivre et voir, c'est deux choses différentes. Donc, tu peux bien voir ce qui s'est passé, avoir une idée, mais par contre, quand on te raconte avec à peu près les faits et gestes de l'histoire, tu te rends compte en fait que c'est un truc vraiment qui a beaucoup marqué les gens, quelle qu'en soit la race ou quoi que ce soit, mais ça a vraiment marqué. Je parle de moi par exemple, à CUTA, c'était un moment de déprime. C'était un moment de déprime parce qu'en fait tu ne savais pas la situation dans laquelle tu étais, tu ne connaissais pas le demain, tu n'avais pas de suite, tu vis et tu te poses la seule question que tu te poses, c'est de savoir si tu vas arriver ou bien... tu rentreras au pays parce qu'en fait, tu n'as pas de suite à ce que tu vis. Tu ne connais pas le devant ni le derrière.
Alors, on va peut-être rappeler ouais, et toi-même avec ta vue et le fait d'avoir été, d'être resté. T'es resté combien de temps à Ceuta ?
Je suis resté 3 mois.
Donc, le fait d'être resté 3 mois, c'est pas très longtemps par rapport à beaucoup de gens.
Oui.
Le fait d'être resté 3 mois, on peut quand même rappeler où est Ceuta.
Oui. C'est lui.
C'est l'Europe, c'est pas l'Europe. C'est le...
Ceuta, si pour nous les clandestins, c'est l'Europe. Mais ouais. Pour eux, en fait, bon, on va dire même pour les Marocains, hein, c'est toujours l'Europe parce qu'en fait, quand tu traverses, c'est barricadé. C'est une petite île qui est entre le Maroc et entre le Maroc et l'eau et Tarifa, si tu veux. Donc, du coup, c'est pas évident. Il faut seulement traverser, c'est-à-dire contourner, pour entrer à Ceuta. Parce qu'en fait, là-bas, c'est pas le drapeau marocain, mais c'est le drapeau espagnol. Ouais. Et quand vous traversez, c'est pas la garde de côte marocaine qui vient vous récupérer, c'est la Guardia Civile. Donc c'est pas pareil. Et en plus là-bas on parle espagnol. Donc pour nous, le fait de traverser ça, c'était oui, on va en Europe.
Ouais. Et donc c'est l'Europe, mais c'est l'Europe, mais c'est le piège parce que c'est
non pas lui.
Administrativement c'est l'Europe, mais ça n'est pas l'Europe.
Il faut dire que si je suis au Maroc, je suis encore à Tanger ou à Nador ou moi personnellement je quand je traversais les montagnes pour aller regarder, je voyais que ces Utah, c'était l'Europe, quoi. Ça brillait tellement. Et puis, il y avait tellement de belles choses. Tu voyais qu'il y avait des fêtes, des moments où tu restais sur la montagne, tu voyais qu'ils lançaient des trucs. Mais quand tu traverses, quand tu réussis à entrer déjà et que tu es à l'intérieur, la seule envie que tu as envie, c'est de ressortir parce que tu te rends compte, en fait, que c'est très beau. Mais ça n'a rien à voir, c'est pratiquement le Maroc, parce qu'en fait, la mentalité, le comportement des gens, et la façon de, je crois, aussi de se comporter avec les immigrés, c'est pareil, en fait, il n'y a pas trop de différence.
Voilà, et ce tas n'est pas un but. C'est un endroit où on passe sur une route, sur un chemin.
Oui. C'est surtout un endroit où on reste. Donc, en deux mots, Ceuta, c'est une toute petite enclave au nord du Maroc qui appartient à l'Espagne et qui est financé par l'Union européenne, qui a construit un immense mur, barbelé, protégé, avec caméra infrarouge, et à l'intérieur, un centre pour les migrants, pour les accueillir. Il se trouve que le centre est ouvert, parce que c'est la ville qui a une immense prison à ciel ouvert. D'un côté, il y a le mur, de l'autre côté, il y a la Méditerranée, qui est infranchissable, c'est le détroit de Gibraltar, c'est des courants. Et on se sert aujourd'hui de cette enclave, qui n'est pas sur le territoire européen, mais sur le territoire africain, pour externaliser les frontières, c'est-à-dire pouvoir, d'une certaine manière, comptabiliser la migration, et en l'occurrence ces migrants, nous quand on y était il y avait 1000 migrants à peu près, sont en attente d'être réexpulsés vers leur pays, ou alors de passer dans de rares cas.
Dans de très rares cas, mais il y a quand même des cas où il y a des gens qui passent, et ça fait très plaisir. Alors, je vais te poser d'ailleurs un certain nombre de questions et rester aussi sur le mode de la discussion. Mais peut-être avant, je propose qu'on écoute Maliko. Hein, c'est une quarantaine de musiciens maliens qui se sont regroupés pour faire une chanson et un clip qu'on peut voir sur YouTube pour la paix au Mali. Et quand le single sortira, le single sera d'ailleurs servi. Si l'argent est récolté, ce sera pour aider financièrement les réfugiés, parce que cette guerre qui a lieu au Mali, on ne parle pas suffisamment quand même des quelques centaines de milliers de réfugiés qu'elle fait. Alors ces réfugiés, ils sont assez peu ici, ils sont surtout au Burkina, au Niger, il y en a eu en Algérie, en Mauritanie. Mais je propose tout de suite qu'on écoute Maliko, parce qu'en plus, peut-être tu es passé par le Mali.
Non, moi je suis passé par le Niger.
Par le Niger. Mais bon, c'est...
C'est d'autres coups de migration, certains sont passés par
oui,
le Mali.
Oui, j'en connais qui sont passés au Mali, qui sont même jamais arrivés. Hein. Ouais. J'en connais.
C'est une autre route. Donc on écoute tout de suite Maliko.
Get back up. kani wanti waynau waynau kangan nura gasi dunya kanjata jara afriki kul manyoga mali borega fo mandani dange
manyogon dabali bankoye manyogon kabakoye gleki minti tadi ye gleki hinduna ala fo koron fo mondu ye mali tetalala
Kunu maliba kera mulu malibe goyambe kasila hamina jorola bisikera boye dungu do flim ngura ningera kaba goye abarata nama tudo amege jugu sagoye
mali tunye jamana mie jamana dumamba kabini kele nana mali dombe torola boye ai dunya na manja zirande numbe malo sinni
Malisa me volvió.
Arwa, su que le más adiño ya vale. Ene a mi na, a me lloro la ñoño.
Yo pena la que cuando cuando malime.
A me joli que le ñe.
Yo pena la que cuando cuando malime.
La paix, la paix, la paix.
toujours à l'écoute de Singulier au pluriel sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et rfpp.net en streaming partout dans le monde. Et cette émission sera très bientôt téléchargeable sur l'audioblog Singulier au pluriel, hein, c'est sur Arte Radio. Alors le plus simple, c'est de taper dans votre moteur de recherche favori Singulier au pluriel en un seul mot et sans oublier le S à Singulier parce que Singulier est au pluriel. Et là, vous arriverez donc sur l'audioblog. C'est plus simple que de donner l'adresse en entier et on pourra réécouter et télécharger cette émission. Donc, on est toujours avec Guy et Jonathan. Et donc, Guy, qu'on t'a vu et qu'on a entendu il y a 3 mois dans cette émission et on t'a vu dans le film Ceuta 12 prisons. Jonathan, tu as réalisé le film. Et donc, une des questions, on en parlait pendant qu'on écoutait la musique. Il y a... Donc, Ceuta, ça a duré 3 mois pour toi. Ça peut durer plusieurs années pour d'autres. Oui. Il y a un avant Ceuta, un après Ceuta. Donc, ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton voyage avant Ceuta? Je te demanderai pas pourquoi tu es venu ici, pourquoi tu es venu en France. Tu le dis un petit peu dans le film. Et alors, si je te demanderai pas pourquoi, c'est pour une raison très simple. Hein, c'est que la Déclaration universelle des droits de l'homme dit que on peut voyager. J'ai un trou de mémoire pour la citation exacte, mais elle garantit la liberté de circulation et la liberté d'installation. Donc le pourquoi tu voyages n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tu voyages et comment tu as voyagé. Donc d'où tu es parti, combien de temps tu as mis pour arriver jusqu'ici et les différentes étapes, parce que ça a mis du temps, ça a coûté très cher.
Ouais. En fait, il faut dire que je quitte déjà de OIM au Gabon, qui est mon pays d'origine. Alors, quittant d'OIM, je passe par Bitam. Bitam, je me retrouve à... Ce sont en fait des petites villes.
Des petites villes
proches de la frontière entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée équatoriale. Qui en fait, c'est un petit carrefour. Quand tu arrives à la frontière... Quand tu arrives à Kiosi, tu trouves la Guinée équatoriale, la frontière Guinée équatoriale, la frontière gabonaise et celle du Cameroun. Mm-hmm. Donc, en fait, comme le parcours que j'avais eu de mon...
Si tu peux parler en face du micro, à peu près 3 cm du micro.
Ouais. Donc, comme le parcours que j'avais eu de mon pote, qui m'avait dit, bon voilà, si jamais tu es venu me retrouver en Algérie, je t'explique comment ça se passe. J'ai pris plutôt la direction par le Cameroun en passant par Kiosi. Kiosi, je me suis retrouvé à Yaoundé. Après Yaoundé, j'étais obligé de prendre directement le train pour me retrouver à Ngaoundéré, qui est le nord du Cameroun. Ngaoundéré, je prends Maroua, je me retrouve à pas loin de la frontière du Cameroun et du Nigeria. Nigeria, il faut que je passe par Maiduguri. Maiduguri, je me retrouve à Tachamkanou. Tachamkanou, maintenant, il faut que je trouve un autre truc, une autre voiture qui va m'amener à Zender. Donc,
tout ça, tu as pris quand même plusieurs véhicules pour passer toutes ces frontières.
Non, oui, en fait, il faut dire que tu es déjà, tu es déjà prêt de ce qui va se passer parce qu'on t'explique, en fait, celui qui te donne l'itinéraire.
Toi, c'est quelqu'un qui l'a déjà fait.
Ouais, justement, ouais. Il était en Algérie, donc pour que moi je sache un peu comment je dois marcher.
Donc tu es averti.
Ouais,
et tu commences par passer. Alors là, tu nous dis donc beaucoup de frontières que tu passes. Comment ça se passe le passage des frontières?
Bon.
Le passage des frontières entre le Gabon et le Cameroun.
Oui.
Cameroun-Nigéria.
Il faut dire que c'est pas très, très compliqué au niveau des frontières africaines parce qu'en fait tout ce qu'il faut, on va dire que tout ce qui tourne autour de frontières ou quoi que ce soit, je pense que c'est un peu plus financier que humain. Mm-hmm. Tu vois, donc du coup avec l'argent on peut résoudre beaucoup de problèmes en Afrique. Donc quand tu as l'argent sur toi, ça passe plus vite. Et que ça soit au niveau, en fait il n'y a pas trop de problèmes. Il faut juste que tu t'entendes avec le policier. Et que tu expliques d'où tu viens. Bon, en fait, moi, déjà en quittant le Gabon, il y a une chose, c'est que si tu as un passeport sur toi, déjà, il faut dire que ce ne serait pas complètement évident parce que tu ne pourras pas dire si tu es Gabonais ou tu es Camerounais ou si tu es Camerounais ou Nigérien. Donc moi, j'ai la chance de parler l'anglais et le français. Et un peu, donc je suis capable de discuter avec eux, leur expliquer que voilà, je suis de telle nationalité. Et puis ça se comprend très vite. Entre nous, en fait. Et puis, si on peut faire... il faut dire que ça se passait plus aussi au niveau un peu corruptible et tout.
Il ne faut pas avoir de passeport, en fait, pour pouvoir mentir et s'adapter à chaque fois.
Voilà. Donc, il faut être plus... je pense qu'il faut être un peu cultivé de savoir comment est-ce que ça se passe de leur côté.
Et puis donc, il y a quelques états que tu as passés, mais sur le trajet que tu me donnes là, c'est moins évident que ce que je pensais au départ. C'est qu'à l'intérieur de certains grands espaces comme la CDEAO, il y a aussi la libre circulation.
C'est entre parenthèses la libre circulation qui se passe entre le Gabon, la Guinée équatoriale. C'est pour nous, les habitants de sur place, c'est pas évident. Même parfois, pour quitter le Gabon pour arriver au Cameroun, il faut avoir un visa. Pour quitter du Gabon pour aller en Guinée, pour aller à Bébéine, il te faut être pris un visa, donc c'est pas évident.
Oui, c'est pour ça. Mais on n'est plus dans la CDEAO là.
Oui. Bon, comme moi j'arrive déjà du côté du Nigeria, entre le Cameroun et le Nigeria, ça va. Tu as ta carte dentée, tu passes. Mm-hmm. Donc, et ça, ce sont les choses qui se font dans le tas, quoi. Donc, tu es capable de. Si tu connais déjà les petits réseaux, vu que j'avais déjà le parcours, j'avais déjà comment est-ce que je devais faire les choses, je me disais autant. Il faut être rusé, il faut avoir un peu de ruse pour pouvoir s'acquérir ce que. Voilà, quoi. C'est pas évident, mais bon, il faut bien être rusé. Donc, arrivé au niveau du Cameroun, tu dis que tu es Camerounais. Et puis, quand tu arrives du Nigérien, tu dis Cameroun, speak English. Donc, je suis Nigérien et puis ça se passe. Mm-hmm. Donc, arrivé au Nigérien, au niveau de Maiduguri, là-bas aussi, si tu ne parles pas anglais, c'est un peu difficile parce qu'on ne parle que l'anglais. Ce n'est pas le français ou quoi que ce soit. Ce n'est pas un français mélangé de l'anglais. Non, ils ne parlent que l'anglais. Donc, il faut bien, pour te déplacer, il faut bien que tu parles un peu. Donc, je m'approchais près des mototaxis que je demandais où est-ce que ça se trouve, Tacham Kano, où est-ce que ça se trouve, Maiduguri. Et c'est comme ça, ils m'expliquaient, bon, tu vas prendre ça. J'ai dit, c'est à peu près combien. Donc, j'ai évalué à peu près combien j'avais à dépenser par rapport à la somme d'argent que j'avais sur moi. Mais il ne fallait surtout pas donner l'apparence de quelqu'un qui va quelque part ou bien qui a les sous sur lui. C'est-à-dire que tu faisais comme tout le monde. Déjà que moi, en quittant du Gabon pour le nord du Cameroun, on va dire j'ai fait 2 jours. Ces 2 jours, c'est allé très très vite. C'est 2 jours de jeûne parce qu'en fait, tu veux traverser tout ça. C'est dans ta zone. Donc si on t'attrape là, tu recommences tout à zéro. Et on va te dépouiller et puis ça sert à rien. Donc il fallait juste être le plus vigilant possible. Donc je suis quitté de là pour arriver directement au niveau du nord du Cameroun. Déjà là-bas ça allait un peu, mais il fallait trouver une moto, pas traverser la frontière parce que tu n'as pas de comment je veux dire. En fait les frontières c'est un peu comme des quartiers si tu veux. Et donc que ça soit du côté Nigeria, du Cameroun, ils se comprennent déjà au point où ils peuvent venir manger de l'autre côté. Et puis il se crée déjà une petite ambiance qui fait que sur place il peut avoir des petits business qui se passent, c'est-à-dire des petits business de transport. Toi, quand tu en arrives, qu'on voit ta tête, on sait très très vite que tu n'es pas du coin et qu'on sait peut-être que tu veux, vu que c'est la route de pas mal de personnes. Alors, quand on te voit, on sait que bon, tu veux traverser, ils viennent derrière toi et puis ils t'expliquent. Bon, si tu veux pas traverser la frontière, tu as ton passeport, ou si tu veux traverser la frontière, etc. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai expliqué au mototaximan que bon, moi, j'ai telle somme d'argent, je te donne et puis tu me fais traverser la frontière. Et c'est comme ça, il m'amène du côté de Maiduguri et c'est comme ça que j'évolue. Maiduguri, je tombe sur... Avant de prendre la voiture, je dis bien au chauffeur que comme tu vois, je n'ai pas de papier. Donc il faudrait bien que tu te rendes compte que si la police arrive en face, c'est toi qui dois assumer et tout. Donc vu que c'est un business, et il va te demander peut-être une somme d'argent un peu. Donc voilà, c'est comme ça que je continue jusqu'à ce que j'arrive à Tacham Kano. À Tacham Kano, qui est toujours sur le même système. Petit temps de Tacham Kano, il fallait arriver à Zender. C'est où j'ai eu un peu, on va dire, j'étais un peu naïf.
Zinder, tu es au Niger et là tu es déjà dans le désert.
Ouais, parce que là, ça devient un peu plus dangereux. Ils sont très musulmans. Ils sont à fond sur le qui tu es, le où tu vas, le pourquoi. Et ce qui fait que j'étais... Moi, déjà, j'étais un peu frustré de me retrouver dans tout ça. C'est vrai que c'est arrivé comme ça, mais bon, j'étais un peu frustré. Et sachant déjà, vu la tête que tu as, que non, toi, tu peux... Ils jugent, en fait, si tu veux, ils essayent de voir si tu es capable d'avoir les sous sur toi. On va te mettre dans une chambre, on va bien te loger, mais en fait, c'est une petite façon de dire, bon, écoute, comme tu es déjà là, on va te nourrir, on va te manger. Et tout le temps que tu vas faire là, tu vas nous payer avant de partir. Mm-hmm. Donc, moi, j'ai eu cette malchance d'arriver, j'avais l'argent sur moi, mais je suis tombé sur la main de ce que nous on appelle les corseurs. Les corseurs, ce sont des arnaqueurs en fait. Donc ils vont te prendre, ils vont te mettre dans une chambre avec peut-être le nombre d'autres personnes à qui ils font ça. Et il faut être jusque là, il faut être vraiment très malin. Il faut être malin, vigilant et très prudent, parce que
en fait, les coxeurs, c'est des gens qu'on retrouve dans tout le transport, c'est des rabatteurs.
Voilà. Donc, ce sont pas des gens à se confier, même pas un peu. Il faut même pas du tout. Alors moi, vu que mon pote, il m'avait déjà expliqué la chose, il m'avait dit, fais très attention parce que comme tu es en train de traverser comme ça, il y a des gens qui vont chercher à t'arnaquer, sachant que tu as l'argent sur toi. Et moi, ce que je faisais, je le gardais autant que je pouvais. Et mais arrivé sur place, il faut dire que j'étais plus qu'un petit fou, quoi. J'avais la tête de... Je faisais tout et tout parce qu'il fallait pas du tout... Il fallait... Moi, l'image que je voulais donner, c'est un gars qui s'est même perdu, qui sait pas où il va. Parce que tu sais pas qui est en face de toi. Et étant comme ça, sachant qu'il ne pouvait rien en profiter, tu ne traînais pas très longtemps dans leurs pattes. Après, il cherchait un moyen de te... Et puis, c'est comme ça que j'évoluais. Donc, je suis quitté de Zender pour Agadez. Arrivé à Agadez, j'ai vu les gars qui... Déjà, j'avais un téléphone que j'ai vendu, donc j'ai continué. Arrivé à Agadez, c'était un peu plus compliqué. J'ai fait quoi, une à deux semaines, hein, parce qu'il fallait que je sache à qui j'ai affaire et comment est-ce que je dois faire. Finalement, il s'avère que ça s'est bien passé. J'ai trouvé un transport avec le... Parce qu'en fait, quand moi j'arrive, on va dire qu'il y a un problème au Niger au niveau de la il y avait, je crois, la guerre là-bas. Donc du coup, on arrivait, on voyait des maisons un peu... On sentait qu'il y avait la guerre, en fait, parce qu'il y avait des convois de... Chaque fois, il y avait des convois de militaires qui passaient. Donc il fallait faire très attention. On pouvait avoir une balle perdue. Donc il fallait extrêmement... Toujours être dans
le... C'était quand que tu étais au Niger?
C'était 2011.
Ouais, 2011. 2011, oui, mm-hmm. L'année 2011. Donc, c'était un peu chaud au Niger. Et il fallait faire très attention. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur des gens qui étaient déjà sur place, bon, dans le marché, avec qui je m'entendais. Vu que j'avais fait deux semaines, donc ça m'a permis le temps de me faire un ou deux connaissances pour pouvoir savoir comment est-ce que je peux faire pour arriver à Arlit. Et c'est comme ça, j'ai trouvé un chauffeur camion qui m'est arrivé à l'entrée d'Arlit. Il fallait qu'on fasse de l'échange, il fallait qu'il me mette sur une moto. Parce que en fait, tout ça, c'est l'argent, quoi. Si tu n'as pas d'argent, c'est pas évident.
Donc en fait, à chaque fois que tu arrives dans une ville, il faut trouver la bonne personne qui va pouvoir t'amener dans la ville d'après, oui. Et la personne de confiance,
oui, surtout,
et le bon prix.
Oui, le prix même, si tu veux, tant que tu as l'argent, le prix, c'est pas important. Si tu as déjà l'argent, on te prend, on t'amène, hein, même pour rien. Bon, pas pour rien, tu payes pour ça. Mais si tu as déjà le prix, si tu as déjà l'argent sur toi et qu'ils évaluent que, bon, voilà, moi j'en connais qui n'ont même pas fait un mois, qui sont passés de suite parce qu'ils avaient l'argent en tant que tel. Mais moi, déjà ne sachant pas ce qui m'attendait devant, j'étais obligé d'être très prudent. Personnellement, moi, je suis quelqu'un de très prudent et je pense que ça m'a toujours aidé. Donc, à l'instant, je ne savais pas où c'était Arlit. Et ma première fois de découvrir Arlit, c'est quand j'arrive à Arlit. Donc, et quand j'arrive sur place, donc je quitte du côté de mon pays qui est un peu plutôt légèrement frais pour arriver dans un coin complètement désert. Donc, c'est deux mondes différents. Il faut pouvoir gérer tout ça. Et quand je suis arrivé, on m'a dit, tu demandes de telle personne. Et je suis allé dans une cabine, j'ai appelé la personne qui m'a dit, tu me retrouves sur telle banque, devant telle banque. Et vu que j'avais déjà fait deux semaines, donc j'avais la tête, on va dire, entre parenthèses, d'un Nigérien. Et quand le gars, il est venu, il m'a pris, mais qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, je vais à la Tamaracet. Il m'a dit, tu as telle somme d'argent? Je lui ai dit, je n'ai pas. Il m'a dit, mais qui t'a envoyé? Et puis, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Il faut que lui sache qui t'envoie pour pouvoir essayer de... Mais en fait, pour savoir s'il peut te faire confiance ou pas. Et puis, c'est comme ça que ça évolue. Et j'ai quand même réussi à lui donner ce que j'avais. Et c'est comme ça que je suis arrivé à Tamaracet. Mais déjà, Tamaracet, ils ne vous laissent pas...
En Algérie, donc.
Oui, Tamaracet, c'est en Algérie. Et là-bas, ils ne vous laissent pas... À destination même. Ils vont vous laisser peut-être à 35, 45 kilomètres de là. Ouais. Donc il va falloir vous remonter et vous dire, alors l'Algérie c'est là, Tamaracet c'est là.
Et là il ne faut pas perdre le nord.
Oui, donc en fait il faut suivre, parce que très souvent dans les groupes comme ça, on va dire que les anciens, tu vas toujours trouver ne serait-ce qu'une personne qui connaît déjà la route, qui est déjà passée par là, qui a eu un refoulement, qui est remontée. Et c'est cette personne très souvent qui sert de guide. Donc après, on était obligé de le suivre, son rythme, qu'il marche vite et qu'il marche doucement. Tu n'avais pas le choix, tu marchais comme lui. Et voilà, on était obligé de faire tout ça. Et arriver à ta marassette, c'est le chacun pour soi. Quoi. Il faut que tu cherches le coin où se trouve ta région, où se trouvent les Gabonais, où se trouvent les gens de l'Afrique centrale. Et
c'est-à-dire tout. Qu'en fait, dans la banlieue de ta marassette, il y a des ghettos, c'est-à-dire qu'il y a des regroupements voilà. De tous les gens qui font l'aventure. Voilà, voilà. Et que toi,
qui se prennent des petits locaux et essayent de vivre en communauté. Mm-hmm. Donc moi, quand j'étais arrivé, j'étais extrêmement épuisé. J'avais pas bu de l'eau, ça faisait, je sais plus, ça faisait presque deux jours comme ça. J'avais pas goûté l'eau, donc j'étais extrêmement épuisé. Et quand je suis arrivé, vu la tête que j'avais, franchement, mais j'étais obligé de me rabattre, même sur les Algériens, parce que je n'avais plus le choix. J'étais vraiment, il fallait que je boive un peu. Et je suis tombé sur un agent, je lui ai demandé s'il trouve, il sait pas où se trouvent les Noirs ici dans un coin, qui m'a dit, il parlait un peu anglais, donc moi. Comme je parlais anglais avec lui, il se disait peut-être. Je me suis dit autant, il s'est dit que je suis nigérien et tout. Donc il m'a montré la place des Nigériens. Et quand je suis arrivé, oui, il y avait les Nigériens. Ils m'ont montré plutôt où il y avait les gars de l'Afrique. Parce que Nigérien, on va dire, c'est que l'anglais. Donc quand tu te retrouves.
Nigérian.
Ouais, Nigérian et Nigérien aussi. Ouais. Donc quand on arrive. Quand j'arrive au niveau des gars du Cameroun, tchadien et tout ça, ils sont tous regroupés ensemble. Et puis on me présente, bon voilà un Gabonais qui vient d'arriver, il veut aussi pouvoir avancer et tout. Vu la tête que j'avais et tout, les gars ils ont d'abord dit, écoute, assieds-toi, tu vas prendre une douche et puis on va t'apporter de quoi manger. Et après ça, j'ai quand même commencé à reprendre forme. Et puis vu qu'il y a déjà les anciens sur le terrain qui savent comment ça fonctionne, donc il faut juste être très patient, essayer d'attendre pour pouvoir apprendre d'eux, tu vois. Moi, j'étais très observateur. Le lendemain, vu que je suis arrivé dans une bonne période, il y avait le travail à Tamaracet, donc on avait besoin de main-d'œuvre. Et puis, ils m'ont dit, bah, écoute, ça tombe plutôt bien quand tu arrives, on aura du travail pour toi. Et c'est de là, dans ce travail, que j'ai fait beaucoup de connaissances, beaucoup d'amitié et tout.
Et tu faisais quoi comme travail à Tamaracet ?
J'ai fait la plomberie, j'ai été manœuvre en maçonnerie, et j'ai fait aussi. Je vidais le sable dans les camions. J'ai fait pas mal de choses, en fait. Et un peu de cuisine, parce que fut un moment, j'étais avec les amis, il fallait que quelqu'un fasse la bouffe. Donc, du coup, quand j'avais un peu le temps, je faisais à manger et tout. Et puis, ça apportait beaucoup de gaieté dans le cœur de chacun.
Parce que t'es cuisinier à la base, en plus.
Ouais.
Oui, mais il y a ça qui me fascine. Donc, dans ce qu'on appelle l'aventure, c'est partir de son pays pour aller tenter sa chance en Europe, c'est que c'est une succession de petites villes, de petits passages d'une ville à l'autre, et qu'arriver dans chaque ville, c'est trouver le passeur pour la ville d'après, trouver le ghetto avec sa communauté, et parfois trouver le chocobo,
bon passeur même.
Le bon passeur, parce le passeur à qui on peut faire confiance.
Tu peux avoir un passeur, tu tombes sur un passeur, lui, il s'en fout de ta personne, c'est pas. Il peut te prendre, il te dit, bah, écoute, comme moi j'en connais. Quand on s'est retrouvés tous en Algérie, quand on s'est retrouvés justement pour manger, chacun racontait son histoire. Question de s'apprendre un peu ce qu'on avait dans le ventre et tout. Qui te racontait que bon, quand il est arrivé au Niger, il est tombé sur un passeur, on l'a pris tout son argent, en plus on n'a pas eu le frapper. Et comme quoi on lui a dit, la route de l'Algérie, c'est par là-bas. Donc du coup, en quittant du Niger, il a été obligé de passer par Niamey.
Ouais.
Non mais il est quitté d'Agadez. Parce qu'on l'a fait tous à Agadez, au Niger. Donc, on l'a montré plutôt la route de Niamey, etc. Il s'est retrouvé au Mali. Et puis, recommencer tout à zéro.
Si on prend une carte du Niger, on va voir qu'il y a Niamey. Pour aller vers l'Algérie, on va passer par Agadez, Arlit, et on va arriver sur Tamanrasset. Donc là, on l'a envoyé dans le sens inverse.
Ouais, c'est ça. Ouais,
c'est pour ça que
en
je
gros,
disais.
Qu'il y a des passeurs qui t'escroquent, en gros. Et quand tu arrives dans une ville, il faut trouver le bon passeur qui va te faire confiance, mais à qui toi tu fais confiance aussi.
Bien sûr, bien sûr.
Ce qui n'est pas simple. Il y a donc le ghetto.
Non, mais
avec les
pour
qu'il
te fasse confiance, il faudrait qu'il sache déjà d'où tu viens, parce qu'il ne te connaît pas.
Qui t'envoie.
Donc, qui t'envoie. Donc c'est plus facile si je dis peut-être je viens, c'est de la part de Jonathan. C'est plus facile pour telle personne de voir que bon, ah oui, c'est Jonathan, ça marche. Ok, vas-y.
On va se méfier des attentes.
Voilà, donc. Si par contre je viens devant lui, je lui dis, écoute, je vais passer, je sais pas qui. En fait, lui, il sait pas qui en face de lui, donc du coup, il peut dire oui comme il peut dire non. Si tu lui dis, écoute, moi j'ai telle somme d'argent, voilà, tu lui dis même pas d'où tu sors, écoute, moi j'ai telle somme d'argent, je veux traverser, et qu'il juge que cet argent, c'est recevable, pourquoi pas. Et puis quand il vous met, c'est chacun son tour. Hein. Quand vous arrivez, vous êtes peut-être 30, 40, vous êtes tous dans une petite maison, dans une maisonnette, et. Il y a à manger. vous sortez, vous faites ce que vous voulez. Mais le problème, c'est que, étant là-bas, tu sais toi-même que tel jour tu dois partir, ou bien tu sais pas, peut-être tu vas attendre encore. J'en connais au Niger qui ont fait presque 2 ans sur place, ils attendaient leur jour pour aller à Tamaracet. Hein. Mmh. Moi, je suis venu, on va dire, j'ai eu beaucoup de chance parce que si eux, j'en connais aussi qui sont arrivés au Niger, qui n'avaient plus d'argent sur eux, donc du coup, ils étaient obligés de rester sur place, ils essayaient de faire la vie sur place pour pouvoir économiser. Non, c'est pas évident. Sur tout ce trajet, tu trouves toujours des blessés.
Et ce trajet, donc entre Agadez et Tamaracet, tu le fais sur quel genre de véhicule ?
Celui des 4x4. En fait, les 4x4, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Des remorqueuses. Non, même pas. En fait, c'est des petits camions, en fait. C'est ouais, genre 4x4.
Des pick-up, quoi. Des...
Ouais, voilà, voilà.
Ouvert à l'arrière, c'est ça ?
Oui, à l'arrière. Et il faut dire que vous êtes au-dessus de la marchandise du monsieur.
Ouais.
Donc, en fait, tu es sur la voiture, mais lui, il a déjà mis ses cartons. En fait, il va livrer quelque chose, mais vous, vous êtes le bonus. Ouais. Que vous soyez 100 ou 150, ce n'est pas son manioc. C'est pas son problème. Il faut qu'il vous attache. Ah bon, pas vous, il attache la marchandise. Et les cordes vont vous servir d'accrochage, en fait. Donc, il faut que tu t'accroches à la corde le plus fort possible. Parce que l'allure qu'il va prendre, il ne s'arrêtera pas. C'est genre, s'il est à 100 et poussière à l'heure, c'est 100 et poussière du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas d'arrêt, que si ça soit... Il n'y a pas d'arrêt.
Vous étiez combien, par exemple, dessus?
Nous, on était... Franchement, je ne peux pas compter. Hein. Je ne peux pas compter parce que moi, j'étais tout au fond. J'étais tout au fond. J'étais tellement accroché que je n'avais même pas le temps de quelqu'un. J'étais en train de juger où est-ce que je passe, comment est-ce que, au cas où, si je tombe, c'est que... Donc, je cherchais l'issue au cas où, mais qui était plutôt une chance pour moi de réussir. Donc, mais quand j'ai senti qu'on arrivait en Algérie, c'est quand tu es au désert, tu ne vois que le sable. Il n'y a que du sable. Mais c'est tellement beau, mais en même temps, c'est... vu que tu es accroché quelque part, ça fait aussi peur. Non, mais tu continues et tu te dis, autant si tu tombes là, c'est fini. Mais tu entres dans les prières, tu demandes à Dieu de t'aider. Et puis quand on est arrivé, j'ai senti au niveau, en fait, les rochers, parce que tu quittes du sable très fin et tu commences à voir des rochers. Ça veut dire qu'il y a changement de... Il y a changement, et même il y avait changement
de climat.
Voilà, il y avait changement de température. Et même. Donc j'ai compris qu'en fait, on est le climat qui change, qui est très très chaud, qui devient plutôt très très tiède. J'ai compris qu'on est en train d'entrer en Algérie. Et on a fait pratiquement un truc comme 15 km qui tend du. Vu qu'on était désert, on a dormi au désert, parce qu'on a fait 2 jours de route. On a dormi là, et puis arrivé. On a vu Tamaracet, on n'était pas sur la voiture parce que la voiture elle a eu un problème, il était obligé d'appeler son frère venant de l'Algérie pour qu'on le remorque. C'était pas évident, donc du coup on était obligé de marcher à pied.
Alors ça c'est important parce que la traversée se fait aussi avec des véhicules qui sont en bout de course, ce qui rajoute du danger à la chose parce que si tu te perds un petit peu, si pour une raison ou pour une autre tu dévies la piste et que la voiture tombe en panne ou qu'il n'y a plus d'essence,
beaucoup ils restent dans le désert.
Non mais ils sont nombreux. Il y en avait même tu marches, mais quand tu roules, tu traverses quoi. Je me rappelle, il a volé, c'est genre il est quitté du désert, entré sur l'autoroute, c'est le raccourci, quitté du désert, entré sur l'autoroute, rouler un bon bout de temps, voire une heure ou deux, après rentrer encore dans le désert. Et là, tu comprends très bien qu'on se rapproche, tu vois. Mais c'est rassurant. À l'instant où ils montent sur la route, tu sens quand même que, oui, genre, si tu as un problème dans le désert, tu sauras au moins où te retrouver qui est sur la route. Mais tu vois les gars qui marchent à pied, tu sens que leur voiture est en panne, donc du coup, ils marchent à pied. Ils ne savent pas où ils vont parce qu'il n'y a que le conducteur et son ami qui savent. Ouais. Eux-mêmes, ils ne savent pas où ils vont. Ils peuvent faire des heures et des heures. Donc,
Et donc maintenant, parce qu'on resterait des heures à t'écouter, mais malheureusement, notre émission ne dure qu'une heure.
D'accord.
Donc, tu es coincé, tu es à Tamaracet.
Tamaracet.
Et Tamaracet, c'est quand même loin, parce que c'est à l'extrême sud de l'Algérie, et tu dois avoir quelques milliers de kilomètres pour arriver au Maroc et à Ceuta.
Non, mais déjà, si je quitte du Gabon, j'arrive à Tamaracet. Ça veut dire que j'ai quand même fait un trajet. Donc autant ça va continuer parce qu'il faut être, mot de combattant quoi. Donc moi j'ai dit, je suis en Algérie, il faut que je fasse comme tout le monde. J'ai essayé de travailler un peu, me reposer bien et puis j'ai continué le chemin. Je suis arrivé à Oran. J'ai pris, c'est pas évident en Algérie hein, parce que y a la police qui vous poursuit. Là, c'est vraiment genre, c'est pas évident. Même pour traverser l'Algérie, il faut être vraiment, vraiment. J'ai traversé l'Algérie parce que la police nous a suivis un jour. J'étais obligé de sauter une certaine hauteur, donc je me suis fracturé la cheville. Mais même comme ça, je ne pouvais pas laisser parce qu'il fallait que j'arrive complètement à Magnéa. Parce qu'étant à Magnéa, la police ne peut plus vous prendre pour vous renvoyer au Mali. ou au Niger. Donc, il fallait que je quitte à tout prix Tamaracet et que je traverse Oran. Donc, ce qui m'a pris pratiquement 2 semaines quand je suis quitté de... Parce que je suis resté, on va dire, 2 mois à Tamaracet. Et c'est le 2e mois que j'ai commencé. Il y avait commencé à... Pardon. Il y a eu comme... Les policiers ont commencé à nous poursuivre, chercher les immigrés pour les renvoyer. J'ai eu la chance de pouvoir faire le hiki-hiki, comme ils disent. faire des faux trucs et pour pouvoir continuer. Donc, j'étais là en tant qu'étudiant. Et tout. Bon, non, je suis arrivé jusqu'à Oran. Oran, j'ai fait 1 semaine, le temps de me reposer, puis j'ai continué jusqu'à Magnéa. Arrivé à Magnéa, déjà, ça va. Quand tu es à Magnéa, si on te prend à Magnéa, on te renvoie. Si ce sont les Marocains qui te prennent, ils te renvoient en Algérie. Les Algériens, ils te prennent pour te renvoyer au Maroc. Donc, tu fais plus demi-tour parce que ça coûte extrêmement cher pour eux.
Parce que donc, avant, quand tu te faisais attraper par des policiers... Algérien, c'est à la frontière d'avant qu'ils te mettaient, c'est-à-dire au Mali.
Au Mali,
ce qui fait que tu dois refaire tout ton parcours, que tu es plutôt maltraité. On a plein de récits de Camerounais qui sont fait tabasser, en l'occurrence, qui disent vraiment que la police algérienne est la plus dure
avec les migrants. C'est la plus compliquée. Tu ne peux pas faire la force parce qu'eux, ils sont extrêmement brutaux. Que tu sois plus fort que quoi, tu es d'abord chez eux, il faut dire. Mais ils sont extrêmement brutaux, ils ne savent pas faire les choses. Genre, on t'attrape avant même que tu n'arrives à la voiture, que tu as déjà reçu de ces bosses, mais alors terrible. Et puis du coup, quand ils nous attrapent, on dit « ouais, ça va, c'est bon ». Et même comme ça, ils continuent à frapper. Donc... tout ce que tu pouvais faire, c'était quitter là parce que tu savais pas si voilà. Et en plus, on va te jeter où? On va te déposer où? Encore au Niger, c'est-à-dire soit tu rentres, soit tu recommences tout à zéro, ce qui n'est pas évident. Alors moi, étant déjà au Maroc, j'ai dit bon, comme je suis arrivé à Magnéa, j'ai pas dormi parce que je pouvais pas dormir à Magnéa. J'ai dit bon, je vais continuer. La même nuit que je suis arrivé à Magnéa, après avoir marché j'ai continué parce que la même nuit, on a marché toute la nuit jusqu'à arriver à Oujda. On arrive le lendemain matin. On quitte de Magnéa, il doit être 18h. On arrive le lendemain à 13h à Oujda.
Oujda qui est donc quasiment la frontière, en fait, Algérie-Maroc.
Voilà, mais là, il ne faut pas que les gardes frontières vous voient, parce que s'ils vous voient, c'est mal barré pour vous.
Et comment tu fais pour trouver le bon chemin et le chemin où on ne te voit pas?
Comme je dis toujours, quand tu arrives sur le terrain, tu trouves des anciens. Et parfois, quand tu es avec des anciens, c'est le savoir comment te comporter avec eux. Et j'ai eu la chance de tomber plutôt sur des gars plutôt très sympas qui ne me voyaient pas comme un danger, mais me voyaient comme un ami. Mmh. Alors du coup, moi, j'étais plutôt style vigilant, j'avais posé des questions. Mais quand vous êtes ici, vous savez même comment c'est le Maroc ou l'Algérie. Parce que moi, je suis là, je suis à Magnéa. Mais il faut dire quand même que quand tu es à Magnéa, tu montes du côté des rails, tu es capable, à une certaine distance, de voir ce qui se passe de l'autre côté. Quoi. Parce qu'en fait, c'est tellement proche. Alors, tu marches à une certaine distance, tu vas voir la maison de garde frontière algérienne. À une certaine distance, tu vas voir le drapeau marocain. Donc, tout ça, c'est dans une brousse. Mais là, il faut... faut filer pour pouvoir ressortir de l'autre côté. C'est ce qu'on a fait. Et même, on s'est fait arrêter par la police algérienne qui nous ont pris, nous ont refoulé du côté du Maroc. Donc, ça nous a permis de continuer. Arrivé à Oujda, c'est le même train-train. Hein. Il faut te chercher, il faut que tu essaies de te battre. Bon, moi, déjà, étant au Maroc, il faut dire que j'étais un peu apaisé parce que le Maroc, quand tu es quelqu'un d'ouvert, franchement, tu ne peux ne pas manquer t'en sortir. Et... là-bas, j'ai essayé d'être le plus sympa possible, ouvert le plus sympa possible, faire comme tout le monde, fils Abdullah, donc la charité. La charité, soit je... En fait, il fallait monter à Rabat. Et j'ai tout fait pour me retrouver à Rabat. Et quand je me suis retrouvé à Rabat, après pratiquement 2 jours de marche, après on a volé le train et puis on s'est retrouvé à Rabat. À Fès d'abord, parce qu'à Fès, c'est le fils Abdullah. Tout le monde, tous les blacks dans le Maroc, ils savent que quand tu es black, soit tu demandes des sous, soit bon. Après, quand tu fais comme tout le monde, on te donne, on essaye de te... Ils sont très, très charitables là-bas, en fait. On ne manquait pas de quoi manger, parce qu'on se mettait... Parfois, tu pouvais tomber sur quelqu'un très bien qui te dit « bon, porte mon carton, fais ci, fais ça », et puis tu pourras avoir un peu de sous, question de te dépanner. Mais tout ceci sachant où tu vas, quoi. Donc... et il faut dire que ça ne les surprend pas parce qu'ils savent que bon, c'est par là, forcément. Donc eux-mêmes, ça ne les surprend pas. Donc quand je suis arrivé à Rabat, il fallait que j'essaie de me battre pour pouvoir... Et tout ceci à Rabat, j'ai dit, bon, avec tout le parcours, vu que je n'étais pas prêt, je ne savais pas comment ça devait se passer. c'était un peu brusque pour moi. Donc, ça m'a, pour pouvoir vraiment avoir les sous pour traverser, il faut payer 1200, voire 800 euros pour pouvoir traverser du côté de l'Espagne. Donc, ça m'a permis de rester sur place, économiser un peu pendant un an. Je l'ai fait et puis voilà. C'est comme ça que j'ai réussi à me retrouver à Ceuta.
Ok. Et pour passer à Ceuta, parce que c'est compliqué. Il y a ce mur dont on parlait tout à l'heure en début d'émission.
Ah oui.
Il y a donc c'est quand on voit ce mur, ça a l'air d'être mission impossible de passer du Maroc à Ceuta.
C'est pour ça que je parle de parcours du combattant. Ouais. Parce que pour nous, on sait très bien que si tu veux entrer en Europe, surtout sur mon papier, c'est pas évident. Donc c'est pas normal d'abord, mais vu les circonstances de certains pays, tu peux, même si tu demandes parfois le visa, tu demanderas toute ta vie, tu n'en auras pas. Mais ce n'est pas aussi évident de vivre ce qu'on vit chez nous. Donc, quand tu te décides de sortir, dis-toi bien que soit tu réussis, soit... C'est le cas, comment nous on appelle ça, calé bloqué. Donc, si tu t'avances, tu ne regardes pas derrière. Tu continues à t'avancer jusqu'à ce que tu arrives. Ou bien, si tu veux regarder derrière, tu restes au fond comme tout le monde, comme tous ceux qui restent derrière. Donc, en fait, moi, j'étais devant, je me disais où j'avance. Alors, étant déjà en face de la barrière, que je suis allé trois fois, que je me suis fait choper trois fois devant la barrière, c'était pas évident parce que les gars de côte, franchement, ce sont des jeunes comme nous. Donc, ils peuvent à peu près imaginer ce que nous, on a dans nos têtes pour traverser. Donc, il fallait vraiment être le plus malin possible, mais jusque-là. Même jusque-là, ce n'était pas évident. Alors, ces trois fois, je n'ai pas pu réussir. J'ai dit, bon, j'en ai marre, je ne vais pas aller discuter ou bien bagarrer avec les gardes de côte tout le temps. Même, tu dis bagarrer, c'est eux qui te frappent parce que toi, tu n'as pas de... On va dire qu'il n'y a rien qui te protège. Tu n'es même pas chez toi. Donc, ils te prennent. Mais sur le même train, on vous renvoie du côté de l'Algérie jusqu'à... Et puis, vous êtes obligé de remonter encore à pied jusqu'à Rabat. Non, c'était pas évident. Trois fois de suite, je l'ai fait. C'est pour ça que j'appelle le parcours du combattant. Parce que pour remonter, on vous jette dans une brousse. On dit, ça c'est l'Algérie. Oui, parce que tu vois la lumière de l'Algérie. Mais il faut continuer tout droit. Et en même temps, ils sont en train de vous poursuivre, vous suivre. Avec les armes, question de se rassurer que voilà, oui, vous êtes en train de partir. Mais bon, moi, on est rentré. On a fait trois fois.
C'est bon. C'est pas grave. Ce qu'on appelle le refoulement, en fait. C'est quand le tu refoulement, peux attraper près de Ceuta.
Ouais.
Et donc, il y a ce mur qui est immense et incroyable qu'aujourd'hui, plus personne ne peut franchir. Il y a un moment où il était moins technologique, où il y avait moins de caméras, il était moins grand, il était moins surveillé. Mais aujourd'hui, plus aucun migrant n'arrive à franchir ce mur, qui est donc l'un des derniers d'Europe et qui est l'un des plus surveillés.
Plus on se rend compte qu'il y a du monde, plus ils ont moins de les murs. Parce qu'il faut dire que c'était très bas avant. Quand tu arrivais, ils disaient que dans les années 2005-2004, c'était tellement bas. Mais maintenant, ils ont remonté parce qu'ils ont vu que les gens, ils ne viennent que pour essayer d'entrer.
Il faut absolument regarder le film. Donc là, on n'aura pas le temps. J'avais envie de le faire, mais on n'aura absolument pas le temps parce que au vent près du radiateur, va pas tarder à arriver. Mais dans le film, il y a on voit le mur. Hein, et il y a, je crois que c'est Jean-Claude.
J'y sais, ouais, exactement. J'y sais, qui raconte sa première vision du mur.
Oui, oui.
Ça a l'air d'être la folie, ce mur, vu côté Maroc et vu quand on se dit comment je vais passer de l'autre côté.
C'est pas évident, c'est très très difficile pour traverser ce mur. Parce que déjà, avant de te retrouver de l'autre côté, soit tu as les habits complètement déchiquetés, soit tu as des blessures, mais alors des cicatrices de ouf, parce que en fait, les trucs sont tellement sécurisés, avec barbelés, tout genre. Du coup, tu te retrouves...
Il y a des gens qui peuvent le traverser quand même.
Il y en a qui traversent, oui. Il y en a qui traversent, qui réussissent à surpasser la vigilance des gardes de trucs. Ils réussissent quand même à pénétrer. Mais même encore, quand tu traverses, tu réussis à traverser ces trucs et que tu es à l'intérieur, on te remet à l'extérieur. Mm-hmm. Donc, c'est plus évident.
Et le chemin le plus classique pour arriver dans cet état,
c'est soit tu payes, soit tu fais une cotisation avec les potes comme tout le monde, vous cotisez soit voir dans les 500 ou 600 euros pour acheter un canot
un bateau gonflable
pour pouvoir traverser, ou soit tu payes comme moi je l'ai fait, tu gardes ton argent et puis tu réussis à payer ce que tu as. Pour pouvoir... En fait, quand je dis payer, c'est payer aux Marocains, parce qu'eux-mêmes, ils font le business, là, de faire traverser les gens et tout. Donc, quand tu réussis à payer, on te met dans un convoi, et puis le convoi, tu attendras le jour qu'il partira. Le jour qu'il partira, c'est le jour où il n'y aura personne, tu l'auras. Donc, tu auras l'occasion de partir et puis arriver.
Donc c'est aller à 6, 8 ou 10 dans un petit bateau gonflable, qui est un bateau pour piscine, hein, entendons bien, c'est un jouet acheté en supermarché, c'est un petit bateau. Vous mettre dedans pendant la nuit.
340 kilos aussi.
Voilà, qui contient 340 kilos. Ouais. Beaucoup ne savent pas nager. Toi-même, tu racontes, c'était une des premières fois que tu voyais la mer et que tu n'étais pas...
Non, pas la première fois que je vois la mer, mais c'était une première fois pour moi de me retrouver dessus. Donc là, tu ne sais pas. Tout ce que tu peux juste souhaiter, c'est de ne pas te retrouver en dessous.
Et c'est la nuit et tu plonges dans l'inconnu en te disant que tu vas être récupéré à un moment par la Croix-Rouge qui va te ramener.
Non, mais il y en a qui quittent de la zone où vous entrez dans l'eau pour Tarifa. Ouais. Mais moi, j'ai dit, non, je ne peux pas arriver à Tarifa parce que tu passes en pleine grande mer. Et puis, les gars, moi, j'ai jugé que ce n'était pas, c'était pas faisable. Si tu veux passer en grande mer, ce n'est pas avec ce qu'on a là. Donc, j'ai dit, bon, on va juste chercher... Enfin, ce n'est pas moi qui dis, hein, mais avec le groupe, c'était juste convenable de traverser la ligne internationale et de se retrouver à Ceuta.
Voilà. Donc là, on est à Ceuta. Malheureusement, on va te laisser. Enfin, on va se quitter au moment où tu arrives à Ceuta. Mais ça veut dire que peut-être pas le mois prochain, peut-être pas au mois de février, mais on peut se donner dès maintenant rendez-vous pour le 4e mardi de mars pour continuer Ceuta et après Ceuta, parce que là, moi, je suis pendu.
C'est une histoire au long cours et il y aura des suites et des suites.
Il y aura des suites et des suites. Donc, mais par contre, on va pouvoir te retrouver. Donc, tu as un certain nombre de dates.
Il se trouve qu'il y a plusieurs projections du film à arriver et que parfois, on fait des projections débat avec Guy. La prochaine séance est ce dimanche 27, à 13h, au Festival Bobine Sociale. C'est au Studio de l'Ermitage, dans le 20e. Qu'au début février, le film est projeté le 6 et 7 février au Festival international du film des droits de l'homme. Ça va être au Nouveau Latina et au Cinéma 104. Il y a 3 projections. Et il y a pas mal d'autres projections à venir. Et donc, vous pouvez tout retrouver sur le site www.ceuta-12-prison-le-film.com. Là, il y a 12 dates, dont des dates à Agadir, au Maroc, où on est ravis de présenter le film. À Ouagadougou, on est encore plus ravis. Et dans d'autres festivals où on va pouvoir présenter le film.
Voilà, donc on va se retrouver...
Avec Amnesty. Souvent, Amnesty vient aussi discuter avec nous et faire des projections débat où on peut aussi raconter des statistiques de la migration, l'actualité aujourd'hui et ouvrir un petit peu les thématiques et les problématiques.
Oui, est-ce qu'un des thèmes aussi dont on aurait pu parler, c'est que le film il a été soutenu par Amnesty, il a été soutenu par Miro,
la Ligue des droits de l'homme,
par beaucoup de monde.
Ce qui nous permet, nous, avec un film aussi intime dans la proximité des personnages, de pouvoir après, dans les débats, ouvrir de manière plus large les questionnements et débats.
Voilà. Donc au prochain épisode, donc ça fera Ceuta 3, hein, donc pour le mois de mars, hein, on racontera comment ça s'est passé à Ceuta, comment ça se passe quand toi t'es là, tu galères, tu veux passer de l'autre côté et que tu vois deux personnes ou trois personnes, enfin une équipe de cinéma qui décide de faire un film, qui fait un film sur toi.
Bien sûr.
Et puis après, comment tu as traversé et comment tu es arrivé jusqu'ici et comment ça continue.
D'accord.
Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup Guy.
Merci aussi.
Merci Jonathan.
Merci.
Il est temps donc maintenant de retrouver au fond près du radiateur et on peut se quitter en écoutant par exemple Salignolo.
Salignolo.
Quelques notes de Salignolo avant de retrouver au fond près du radiateur. C'est Dim Yadier.